comme vous l'avez rappelé, c'est maintenant une tradition que d'organiser ces journées. L'initiative en appartenait à Gennaro Toscano, qui en effet est l'homme indispensable de ces séances, et à votre prédécesseur, Éric Gross, vous avez bien voulu les reprendre, et je crois que nous en sommes tous très, très reconnaissants. Alors, comme en effet c'est, je ne sais plus la combientième, Gennaro, la quatrième au moins, et que cela fait donc quatre fois que je fais un discours introductif, il est tout à fait clair que je me répète. Il n'y a pas de très grande nouveauté qui, année après année, me conduisent ou me permettent de modifier mon discours. C'est ce que je me disais en venant, et somme toute, j'ai fini par convenir avec moi-même que mon rôle ici était seulement d'énoncer des généralités. J'espère que vous ne traduirez pas par des banalités, mais enfin que ce ne serait pas toujours excessif. Et donc, je vais me contenter, à titre d'introduction, de ces généralités qu'on pourra peut-être un jour inscrire sur une sorte de grand tableau à l'entrée de l'INP ou de l'INHA. Et question étant, quel est le secteur d'activité de nos sociétés que le phénomène de l'exposition n'affecte pas ? C'est-à-dire poser la question à l'envers, non pas qu'est-ce qu'il concerne, mais ce qu'il ne concerne pas. Et j'ai l'impression que quand on se pose la question aujourd'hui, on est de plus en plus embarrassé pour répondre et pour trouver une activité humaine qui, d'une manière ou d'une autre, ne soit pas prise en compte ou modifiée ou intervenante à un degré ou à un autre dans le phénomène de l'exposition. Vous venez d'ailleurs, citer quelques-uns. Or, je les passe en revue, ce sont ces fameuses généralités. Donc, évidemment, le phénomène de l'exposition affecte tout ce qui concerne l'artistique. Mais par artistique, il faut entendre naturellement les artistes. Et on en aura en effet tout à l'heure l'occasion d'en reparler avec Christian Boltanski. Cela concerne ce qu'on appelle tantôt, puisque le vocabulaire semble flotter un peu, les commissaires ou les curateurs. Je ne sais pas quel est le terme qui est le plus détestable ou le plus vilain. Ça vous concerne évidemment en qualité de conservateur qui pourrait devenir curateur ou commissaire. Ça vous affecte intellectuellement, quotidiennement, professionnellement, puisqu'il y a aussi à l'arrière-plan de tout cela des métiers, éventuellement des carrières, éventuellement des stratégies même qui se jouent de ce point de vue-là. Et ce que je dis des gens de musée vaut évidemment au même titre pour toutes les professions que je viens de citer préalablement. Bon. Ça concerne l'artistique, ça concerne le médiatique. Je serais trop bien placé pour en parler. Cela concerne tous les supports, du plus banal, du papier jusqu'au numérique, qui sont constamment sollicités. Je ne sais pas combien d'annonces, d'expositions nouvelles je reçois par jour. Je ne compte pas. Cela a créé d'ailleurs cette notion que l'on pourrait considérer comme relativement ambiguë d'une actualité des expositions, ce qui signifie un renouvellement, ce qui signifie probablement aussi à la fois des engouements et des oublis. Est-il légitime que la création, quel que soit d'ailleurs son lieu d'origine ou son époque d'origine, soit ainsi prise dans le processus de renouvellement permanent et donc aussi quelquefois d'amnésie rapide que le phénomène de l'actualité entraîne. Cela concerne naturellement le politique, ou la ou les politiques. Et là, je ne parle pas simplement de ce qu'on pourrait appeler une politique des expositions, mais plutôt, à vrai dire, de l'exposition du politique, particulièrement en France, où les responsables politiques, du moins jusqu'à une date récente, semblaient d'accord pour considérer que avoir une action culturelle était quelque chose d'important, voire même peut-être de majeur dans leur action. Je dis jusqu'à une date relativement récente, en tout cas. Ça veut dire que l'exposition, elle a des enjeux, elle a des effets qui s'exercent sur tous les différents niveaux du pouvoir, et qu'il y a donc des rapports de pouvoir qui se créent au sein des institutions. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des élus locaux, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sous de tout autres aspects un petit peu plus tard. Ça concernant le politique, cela concerne le social. Je n'en dirai pas davantage, puisque vous avez évoqué vous-même tout à l'heure à quel point cette question des publics était devenue de plus en plus à la fois troublante et presque angoissante, proportionnellement d'ailleurs, j'imagine, au nombre et au succès des expositions, dont on admettrait de moins en moins qu'elles laissent de côté des pans entiers de la population à partir du moment où elles deviennent un phénomène de plus en plus central. Cela concerne encore un autre secteur de la vie contemporaine, qui est évidemment celui de la politique internationale. On en parlera peut-être, ne serait-ce qu'à propos de la commémoration de la Première Guerre mondiale, ou peut-être à propos des Tudors, d'ailleurs, aussi bien, de politique internationale, c'est-à-dire des expositions à la fois comme lieu de rencontre, c'est dans le meilleur des cas, mais quelquefois aussi pour des États, pour des cultures, une manière de s'afficher, ou une manière de s'affirmer qui est très loin d'être neutre. Et dans les relations entre les nations, cela peut quelquefois prendre même question presque d'antagonisme. On se souvient de relations assez délicates à l'occasion d'une exposition concernant, si je me souviens bien, la Turquie, il y a quelques années, où des questions de politique étrangère avaient très clairement pris le pas à partir d'un certain moment sur les questions d'art et sur les questions de culture. L'artistique, le médiatique, le politique, le social, l'international, évidemment tout cela culmine, comme l'on veut, par l'économie des expositions, l'économie du succès ou de l'insuccès des expositions, l'économie publique ou l'économie privée, les musées ou les fondations, les biennales ou les foires, la part plus ou moins grande prise par le marché, pas nécessairement et pas exclusivement, même si c'est le plus exposé, le marché de l'art actuel, dans les politiques d'exposition et dans les rapports de force qui peuvent s'établir entre des acteurs relevant plutôt du secteur public et des acteurs qui relèvent éminemment du secteur privé. Qu'est-ce qu'exposer veut dire aujourd'hui ? Ça veut dire tout ça. Ça veut dire énormément, énormément de choses. Et j'ajouterais pour finir, et c'est probablement une question qui est aussi liée au succès du phénomène des expositions, à son internationalisation et aux conditions de vie d'aujourd'hui, et probablement il y a quelques années, aurais-je moins songé à intégrer cette donnée-là, c'est la donnée morale et la donnée religieuse. Nous savons très bien aujourd'hui et de plus en plus que des questions qu'on pourrait formuler grossièrement, telles que qu'est-ce qu'il est permis d'exposer, qu'est-ce qu'il est possible d'exposer, aux yeux de qui, où, dans quelles circonstances, selon quel appareil critique ou, malheureusement, quelquefois, en l'absence d'appareil critique, sont des questions qui se posent et qui se poseront, j'imagine, de manière de plus en plus vive au fur et à mesure que l'internationalisation achèvera de s'accomplir. Donc, vous voyez, il n'y a, à mon sens, quasiment plus aucun secteur que la question de l'exposition n'affecte pas. L'exposition est devenue l'un des modes principaux par lequel notre société s'adresse à elle-même et je ne pense pas seulement les artistes s'adressent à la société. C'est pour cela que je dis la société s'adresse à elle-même. Alors j'avais prévu, mais je ne vais pas le faire, puisque Bernard Blisten et Marie Massieu sont arrivés tous les deux, de conclure par une citation, mais elle est trop longue. Vous voyez. En fait, je voulais rajouter une coda qui était « Tout ceci est-il au fond à ce point nouveau ?» Et cette citation était tirée d'Émile Zola et de la chronique de la critique du Salon de 1878. Et je vous en... Oui. Je vais quand même vous en lire une partie. Je vais faire bref. Je ne veux pas empiéter sur le temps d'Anselm Kiefer.
Nous ne sommes pas rivaux.
Ah, pas le moins du monde. Le nombre de... Donc, on est en 1878. Et c'est Zola qui écrit. Le nombre de tableaux envoyés au Palais des Champs-Élysées, il s'agit du salon, chaque artiste peut soumettre 2 toiles seulement, a atteint un chiffre rond jusqu'à 4000 par an. Le nombre de tableaux reçus à l'exposition n'a jamais été de moins de 2000 et s'est même élevé jusqu'à 2900. Le nombre des visiteurs aussi s'est rapidement accru et ce fait permet de conclure à un développement régulier dans toutes les couches de la société de l'amour des œuvres d'art. Sans tenir compte de l'entrée libre du public les dimanches et les jeudis, c'est peut-être une idée qu'il faudrait que les musées reprennent, l'entrée libre les jeudis aussi, le total du public payant au cours des 6 semaines, puisque le salon durait 6 semaines, qui en 1867 s'éleva à 58 200 seulement, atteignit 119 086 en 1868, 165 344 en 1869 et enfin 185 000 en 1876. Voilà des chiffres devant lesquels il faut s'incliner. En 10 ans, comme on le voit, le nombre des visiteurs a presque triplé. Il est hors de doute qu'il n'y a pas au monde une ville et où les habitants soient plus désireux de visiter les expositions d'art. Il s'agit de Paris, naturellement. Mais, malheureusement, on ne peut s'empêcher d'ajouter que le salon s'est incorporé aux mœurs parisiennes. La mode y joue déjà un rôle. La foule va regarder les tableaux pour se distraire. L'art n'a rien à voir là-dedans. Mais cela aussi a son bon côté. À force de regarder les tableaux, il se peut que les masses affinent leur goût artistique. Ainsi, pour ce qui est de la quantité, nous avons tout ce qu'il faut des peintres et du public. Je m'arrêterai là.